Ben, il s'appelle John Parisella. On a travaillé ensemble dans le temps que j'animais une émission de télé. C'était un de mes invités chouchou, je dirais, pour venir parler de la politique américaine. Aujourd'hui, il est professeur associé au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Bonjour, John.
Bonjour, Bernard. C'est très agréable d'être avec vous.
Moi aussi, je suis très content de te retrouver. Faisons un petit... Parle-nous d'abord un petit peu de la nomination du juge... Comment tu le prononces? Kavanaugh.
Brett
à la Cour suprême. Évidemment, c'est Trump qui veut le mettre là. C'est un ultra-conservateur. Ça se passe pas comme il voulait, je pense.
Non. Mais faut dire quand même, dans un premier temps, que des élections ont des conséquences. Quand M. Trump a gagné, il avait promis de mettre des conservateurs à la Cour suprême. Et il y avait un poste qui était libre depuis à peu près plus d'un an, qui était celle du juge Scalia. Puis il a nommé un Neil Gorsuch. Et ça a passé. Il a passé à travers du processus du comité judiciaire de la Chambre, et excusez, du Sénat, et ensuite le vote au Sénat. Et on pensait que ça pourrait être aussi facile dans le cas de M. Kavanaugh, parce que quand on regarde les créances de Kavanaugh, elles sont aussi bonnes, sinon meilleures que celles de Gorsuch.
Son profil est bon, son parcours
est bon. La seule différence, c'est qu'il remplace Arthur Kennedy. Puis Arthur Kennedy est un juge qui était conservateur, mais à l'occasion bifurquait avec un vote progressiste. Exemple, sur la question du mariage gay.
Oui.
Donc, il semble que Kavanaugh paraît plus comme un juge conservateur idéologique. Donc, les gens qui s'opposent ont un danger que le jugement sur l'avortement soit renversé. Donc, les démocrates sont vraiment contre. Je dirais, beaucoup de groupes féministes, ils sont contre. Mais ça s'en allait vraiment...
Vers une ratification.
On n'en parlerait pas aujourd'hui avant que Mme Feinstein, qui Dianne Feinstein, qui est une sénatrice de la Californie, qui a dévoilé une lettre d'une Mme Christine Bassey Ford. Et cette femme-là dit qu'elle a été victime d'harcèlement sexuel il y a au-delà de 35 ans.
Même une agression, non?
Une agression plus que l'harcèlement. Oui, oui. Et ça s'est fait quand elle avait, il y avait 17 ans, et Kavanaugh aussi, partout qui était bien arrosé. Et elle maintient qu'elle a gardé ça en silence. Elle a eu de la thérapie à travers sa vie. Elle est maintenant professeure à l'université en Californie. Et elle ne voulait pas venir, elle ne voulait pas donner son nom, elle ne voulait pas aller publiquement. C'est pour ça que cette lettre-là n'a jamais été dévoilée jusque la semaine passée. Mm. Et là, elle est prête, on sait qui ce que c'est, mais à ce moment-ci, on pensait qu'il était pour avoir un témoignage de Mme Ford et M. Kavanaugh. Celle de Mme Ford pour expliquer son allégation et M. Kavanaugh pour avoir son droit de réplique.
Exact.
Là, Mme Ford a dit hier qu'elle ne veut pas faire le témoignage avant qu'il y ait une enquête de la FBI.
Oui.
Et les républicains, qui sont la majorité au comité, eux autres disent, si elle n'est pas là lundi, on vote. Et après ça, c'est envoyé à ce moment-là au Sénat pour un vote aussi, puisque le vote au Sénat, c'est encore 50 plus 1. Puis il y a des sénateurs, deux sénatrices républicaines qui sont mal à l'aise, et il y a quelques sénateurs masculins républicains, comme Jake Flake, par exemple, qui n'est pas à l'aise avec ça.
Donc c'est pas sûr qu'il sera ratifié, c'est ça que ça veut dire?
C'est pas sûr qu'il va être ratifié aussi rapidement qu'on le pense, et c'est un enjeu qui peut se refléter au mi-terme. M. Trump commence à avoir des inquiétudes qu'il peut avoir une vague bleue étant démocrate.
Dans les élections.
Et à ce moment-là, lui va faire face à 2 ans d'enquête perpétuelle si les démocrates prennent le contrôle des élections mi-terme. C'est pas même pas l'impeachment ou la destitution qui sont problèmes. Même si les enquêtes.
Par
la Chambre des représentants majoritairement à ce moment-là.
Démocrate. Bon, tu nous parles de Washington. Tu as été délégué général du Québec. Il ne faut pas l'oublier. Il nous reste 2 minutes, John. Dis-moi un peu ton sentiment. Est-ce que tu penses qu'on va avoir une entente pour un nouvel ALENA?
Je pense qu'en ce moment, M. Trump a plus besoin d'une entente à cause des élections mi-terme, puis à cause du fait qu'il y a une entente avec le Mexique. Nous, on est moins pressés, mais s'il n'y a pas d'entente cet automne, c'est le gouvernement canadien qui va être plus pressé d'en avoir une parce qu'il y a un rendez-vous électoral dans un an. C'est la réponse longue. La réponse courte, je pense qu'on va avoir une entente. M. Trump, il cherche pas une victoire à tous les niveaux. S'il est capable de clamer victoire, il va le faire.
Il a besoin d'un deal, lui,
non? Et M. Trudeau a besoin d'avoir quelque chose qui respecte essentiellement ses grands objectifs. Puis là, il y a deux ans litige au moment qu'on se parle, c'est la question de la gestion de l'offre et c'est la question du règlement, le chapitre 19, les règlements de différents. Moi, je pense qu'il peut y avoir du mouvement sur les deux qui pourrait donner une chance à M. Trump de clamer victoire.
Oui.
Et à ce moment-là, il pourrait dire qu'il y a une entente avec les trois. Mais j'aimerais juste dire à vos auditeurs, juste avant que ça, qu'on bien termine, sûr, c'est qu'il reste quand même que l'ALENA a des prévisions qui disent qu'il faut donner un avis de 6 mois pour s'en sortir. Donc, c'est pas la fin de l'ALENA, même s'il n'y a pas une entente le 1er octobre. C'est juste que si M. Trump met toute pression sur le Canada, dit, ben moi, je me retire, il y a un avis de 6 mois. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas de règlement, il peut se retirer, mais après ça, c'est l'entente Canada-US de 88 qui a été signée entre M. Reagan et M.
Mulroney.
M. Mulroney. Et là, elle revient
en vigueur.
Et là, on se réveille avec du bilatéral. Bilatéral US-Mexique, bilatéral Canada-US. Et pour sortir de cette entente-là, il y a encore un autre 6 mois. Puis là, on commence à rentrer dans les élections présidentielles. Donc, je pense qu'il faut
pas de panique.
C'est pour ça que je pense que M. Trudeau va lentement. Par contre, il va sentir la pression parce qu'on voit que la solidarité des partis politiques au Parlement canadien n'est pas aussi solide qu'il l'était avant la période estivale.
C'est un très bon point, ça. C'est un très bon point. Ça se perd pas, hein, John Parizella?
Moi, je suis tellement heureux de voir... Non, je vais te tutoyer parce que moi, je te considère un ami. J'avais tellement passé avec toi.
Oui.
Donc, ça m'a fait plaisir.
On a veillé jusqu'à 3h du matin. Tu te rappelles les élections, la première élection de George Bush?
Oui. Oh, mon Dieu,
hein, on a attendu les résultats de l'Ohio puis de la Floride. Puis finalement, c'est arrivé plus tard.
Toujours agréable
beaucoup plus
de
tard.
Voir.
Absolument.
Continue avec ton ami. Michel. Il est formidable, ton ami.
Merci, t'es bien gentil. Je rappelle que, entre autres, professeur associé au département de sciences politiques de l'Université d'Ottawa, mais un citoyen actif à plusieurs niveaux. Merci, John.
Merci beaucoup.